Bonjour, bonjour. Oui, je sais, il fait chaud. J'espère que vous allez bien. C'est pour moi, encore une fois, et pour la dernière fois, ici en tout cas en tant que pasteur de l'Église Émis, une joie et une belle responsabilité que de vous annoncer le conseil de la parole de Dieu. Depuis plusieurs années, je suis professeur remplaçant. J'étais professeur remplaçant d'anglais, maintenant je suis professeur des écoles remplaçant, et à chaque fois que j'arrive dans une classe, je dis bonjour, je suis Monsieur Bernard, votre maîtresse ou votre maître est absent et ne reviendra que dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Et c'est à ce moment-là que je réalise et que je peux juger de l'appréciation des élèves pour leur professeur. Parce qu'il y en a des fois qui disent « Oh !» Mais des fois, il y en a qui disent « Ouais !» Donc si je vous dis « Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je prêche ici. » Les hauts sont plus nombreux. Bon, ça va, je suis rassuré. Toi aussi, Gabi. Il y a des moments dans la parole, il y a des moments dans la vie où Jésus a prêché. Jésus a annoncé la parole. Et il y a des moments où Jésus a enseigné. Et ce matin, bien humblement et courtement, j'aimerais que nous puissions être enseignés de la part de Jésus et enseignés de la part de la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, je vais vous demander de prendre vos Bibles et de les ouvrir dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu au chapitre 25. Et alors que je prie pour ce message depuis plusieurs semaines, le titre que j'ai voulu donner à ce message est le suivant. N'enterre pas ton talent. N'enterre pas ton talent. Nous allons ce matin voir la parabole des talents, une parabole qui est bien connue, qui se situe dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Elle se situe également sous une autre forme, la parabole des mines, dans l'évangile de Luc au chapitre 18, mais nous allons nous arrêter sur celle de Matthieu 25. Ce sont deux paraboles. Les paraboles sont des histoires imagées que Jésus utilisait pour pouvoir enseigner des vérités profondes, des vérités bibliques. Il leur donnait une apparence plus humaine, une apparence plus concrète pour que les gens puissent comprendre ce qu'il voulait dire. Et c'est ce qu'il a fait au travers de cette parabole, la parabole des talents. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous puissiez incliner vos têtes, fermer vos yeux, que vous puissiez prier avec moi pour ces instants. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence et nous te remercions parce que tu as déjà commencé à parler, Seigneur. Et nous te demandons de continuer à le faire. Nous te demandons que toute cette journée, du début jusqu'à la fin, Seigneur mon Dieu, puisse t'apporter la gloire qui te revient, la gloire qui t'est due. Saint-Esprit, je te prie de prendre ces instants, de prendre mes mots, de prendre ce message que tu m'as donné, de le rendre clair, de le rendre limpide, comme toi tu le faisais, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions t'entendre, toi, Saint-Esprit, parler à nos cœurs. Père, c'est un rendez-vous divin que tu as fixé avec tes enfants, avec ta famille. Alors, Seigneur Jésus, glorifie-toi dans ces instants, dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez ouvert l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Nous allons faire la lecture à partir du verset 14. Jésus est en train de parler. Il parle à ses disciples. Je vérifie simplement si votre voisin ou votre voisine n'a pas la Bible. Soyez gentils, soyez chrétiens. C'est le bon moment, c'est le bon endroit. Partagez votre Bible avec votre voisin. Vérifiez un petit coup d'œil à gauche, à droite. Tout le monde a une Bible, qu'elle soit digitale ou en papier. Moi, ça me dérange pas, tant que vous avez la parole de Dieu. Tout le monde là? Je lis pour vous Matthieu 25 au verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres ». Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître ». Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres ». Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître ». Celui qui n'avait reçu 1 talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi ». Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné ? Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » En 2005, un homme du nom de Kyle MacDonald, qui est un Canadien, s'est lancé un défi, un pari complètement fou. Il avait en sa possession simplement un trombone rouge. Et il s'est lancé le défi d'échanger ce trombone, on va voir son visage apparaître, Kyle MacDonald, en 2005, en l'espace d'un an, il a réussi à échanger ce trombone rouge contre une maison. Il a réussi à échanger ce petit trombone rouge, un petit accessoire de bureau, contre une maison. Mais il y a eu des étapes. Il y a eu plusieurs étapes entre ces deux transactions. Tout d'abord, il a pris ce trombone rouge et il a échangé contre un stylo en forme de poisson. Puis ce stylo, il a échangé contre une poignée de porte sculptée. Cette poignée de porte, il l'a échangé contre un barbecue. Ce barbecue, il l'a échangé contre un générateur électrique, qu'il a échangé contre une pompe à bière, qu'il a échangé contre un motoneige, qu'il a échangé contre un voyage pour deux, qu'il a échangé contre un camion, qu'il a échangé avec un contrat avec une maison de disques, qu'il a échangé avec un an de loyer dans la ville de Phoenix, qu'il a échangé avec une après-midi avec Alice Cooper, une actrice américaine. Cet après-midi, il l'a échangé contre une boule à neige. Cette boule à neige, il l'a échangé contre un rôle dans un film. Et ce rôle dans un film, il l'a échangé contre une maison de 2 étages au Canada. Donc, si on doit résumer tout cela, en l'espace d'un an et en une dizaine de transactions, il est parti d'un petit trombone rouge et il s'est retrouvé avec une maison. Toute son histoire est relatée dans un livre qu'il a écrit lui-même, One Red Paperclip, qui existe également en français. Et sur Amazon, le résumé de ce livre est le suivant. Kyle MacDonald, locataire au Québec, voulait une maison. Il a commencé par troquer un trombone contre un stylo, le stylo contre une poignée de porte, etc., etc., jusqu'à pendre sa crémaillère. À ces échanges ont présidé le goût du jeu, l'amitié, la générosité et surtout l'idée que les objets ont une valeur relative. Ce qui est un rebut pour celui-ci peut représenter un trésor pour celui-là. Il ressort de ce livre une philosophie de la réussite très humaine. Y croire, s'y mettre, faire confiance à soi-même et aux autres et savoir qu'on peut changer le monde. Je ne sais pas si cet homme est chrétien, j'ai fait mes recherches, il n'y a rien qui le laisse apparaître. Mais ce matin, et nous également dans nos vies, nous sommes appelés à faire du troc, à faire des échanges avec Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, à quoi nous sommes appelés à faire échange avec le Seigneur. Dans cette parabole des talents, c'est très facile de voir le lien entre Jésus et nous. Au verset 14, il est dit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Dans la parabole, cet homme, ce maître, c'est qui ? C'est Jésus. Et les serviteurs, c'est qui ? C'est nous, c'est toi, c'est moi. Et si on prend au pied de la lettre cette parabole, certainement, ce qu'il faut faire, c'est que Jésus, lorsqu'il est parti au ciel, il nous a donné à chacun, à chacune, des talents. Il est écrit dans Éphésiens 4, verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes, on pourrait rajouter aux femmes. Jésus, en montant au ciel, a dit, je vais vous préparer une place, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse quelque chose, je vous laisse quelqu'un, le Saint-Esprit. Nous sommes tous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes tous les récipients, nous sommes les dépositaires des talents que Dieu, que Jésus lui-même nous a laissés en nous. Verset 15, il est écrit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Nous n'avons pas à nous poser de questions, nous n'avons pas à angoisser, nous n'avons pas à stresser, à savoir combien est-ce que j'ai de talents. Dieu t'en a donné un certain nombre, ne t'inquiète pas. Et même si tu n'en as qu'un, ne t'inquiète pas, il sait ce qu'il fait. Il donne à chacun selon ses possibilités, à chacun selon ses capacités. Nous n'avons pas à stresser, nous n'avons pas à chercher, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais combien est-ce que j'en ai? Est-ce que j'en ai plus que l'un? Est-ce que j'en ai plus que la voisine? Non, cherche simplement à savoir ce que Dieu veut que tu fasses sur cette terre avec les talents qu'il t'a déjà donnés, qu'il t'a déjà remis. Éphésiens 4, 7 nous dit, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Versets 16 et 17, « Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. » De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna deux autres. Les serviteurs se sont aussitôt mis au travail. Dès qu'ils ont reçu ces talents de leur part, de leur maître, ils se sont mis au travail. Ils les ont pris et ils les ont fait valoir. Et avant d'aller plus loin, on pourrait simplement établir qu'est-ce qu'un talent de nos jours. De nos jours, la définition nous dit qu'un talent est une disposition donnée, une aptitude, une capacité physique ou intellectuelle pour réussir en quelque chose. Et c'est là le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un talent ? À certains, Dieu a donné la capacité de chanter, à d'autres de jouer peut-être d'un instrument. Certains ont peut-être la main verte, d'autres se disent peut-être être des cordons bleus, et c'est ce qu'on va vérifier tout à l'heure. Toutes ces qualités, toutes ces aptitudes viennent du Seigneur. La Bible nous dit que c'est le Père des Lumières. Toutes bonnes choses viennent d'en haut, du Père des Lumières. Tu as peut-être une aptitude dans le bricolage, ce que je n'ai pas. Tu as peut-être une aptitude dans la couture. Tu as peut-être une facilité dans un domaine particulier. Et tu le sais, puisque depuis tout petit, tu aimes faire cela. Depuis tout petit, peut-être que tu t'entraînes. Et ses serviteurs se sont mis à faire valoir leur talent. Dieu nous a donné à chacun et à chacune quelque chose qui vient de lui. Que ce soit une voix, que ce soit une facilité avec les chiffres, une facilité avec les langues, que quoi que ce soit, Dieu t'a donné quelque chose. Peu importe ce que tu penses, peu importe ce que le monde pense, peu importe ce que l'on t'a dit dans ton enfance, peu importe ce que l'on a raconté sur toi, peu importe peut-être ce que tes échecs te laissent croire, la Bible nous dit que Jésus, en montant au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux femmes. Si tu es un enfant de Dieu, alors tu as au moins un don, tu as au moins un talent qui te vient directement de Dieu. Et cette parabole te demande, cette parabole nous encourage à les faire valoir, à les faire fructifier. Et alors que je cherchais la définition, une autre est venue sous mes yeux. La définition du talent, c'est également une aptitude, une capacité particulière, une habileté naturelle ou acquise pour réussir dans une activité donnée. On dit souvent que le talent ne fait pas tout. Vous pouvez aller voir les plus grands musiciens, les plus grands virtuoses, vous pouvez aller voir les athlètes les plus forts, les footballeurs les plus réputés. Ils vous diront que le talent n'est rien sans le travail. Pour certains d'entre nous, nous avons peut-être reçu de grandes capacités, de grandes facilités dans un domaine, mais ça ne nous empêche pas, ça ne nous exclut pas de le faire valoir, de le travailler. Un musicien très connu du siècle dernier, un violoniste virtuose américano-russe du nom de Jascha Heifetz, a dit ceci. « Quand je ne joue pas pendant un jour, je m'en aperçois. Quand je ne joue pas pendant deux jours, les critiques s'en aperçoivent. Et quand je ne joue pas pendant trois jours, le public s'en aperçoit. » Cet homme est devenu une pointure, est devenu une mesure dans le domaine de la musique classique et surtout dans le monde des violonistes. Et pourtant, cet homme, qui est qualifié comme un génie du violon, disait lui-même qu'il avait besoin de travailler, non pas toutes les semaines, non pas tous les quatre jours, non pas tous les trois jours, non pas tous les deux jours, mais tous les jours. Tous les jours, cet homme qui, de prime abord, pourrait paraître extrêmement talentueux, qui semble extrêmement doué, lui-même travaillait tous les jours son instrument. Michael Jordan, qui est encore parmi nous, qui est connu et réputé pour être le meilleur basketteur du monde, a dit ceci. « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. » Là encore, je ne sais pas, je ne pense pas que ces hommes soient chrétiens, ni le violoniste, ni ce basketteur. Et pourtant, ils nous donnent une grande leçon. Assurément, aussi bien Jascha Heifetz que Michael Jordan avaient des facilités, ils avaient des aptitudes peut-être plus que la normale. Et pourtant, ils ont pris ces talents et ils les ont fait valoir. Le verbe grec ergazomai veut dire travailler, échanger. Il veut dire également faire, il veut dire s'entraîner, répéter, s'engager, consacrer, acquérir par le travail. Je me tourne vers Michael et Laurence Mattiasi qui chantent et qui jouent si bien. Est-ce que vous répétez souvent? Plus fort? Oui, ils répètent souvent. Et pourtant, lorsqu'on les voit le dimanche, on se dit, mais ils sont extraordinaires, que ce soit à la batterie, que ce soit au piano, que ce soit aux voix, ils sont talentueux et pourtant, ils travaillent. Le talent ne fait pas tout. Et mon ami, tu as reçu quelque chose du Seigneur. Tu as reçu une aptitude, une capacité, une habileté, une facilité dans quelque chose, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois rien faire. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, ça va te tomber dessus et puis tu vas devenir un pro. Non, il faut que nous aussi, nous nous mettions à travailler. Nous nous mettions peut-être à échanger, à exercer notre don, notre talent, à entraîner, à répéter, à nous engager, à consacrer notre talent au service du Seigneur afin que nous puissions avoir des acquisitions par le travail. Comme les serviteurs de cet homme se sont mis à travailler, ils ont fait des affaires, pas une affaire. Ils en ont peut-être même raté quelques-unes, comme Michael Jordan nous le disait. Il y a peut-être des moments où ça va être difficile, il y a peut-être des moments où on va louper. Mais le plus important, comme on le dit, c'est pas de gagner, mais c'est de participer. Dieu ne peut bénir que quelque chose que l'on fait. Si on ne fait rien, rien ne se passera. Personne ne naît avec la capacité immédiate de pouvoir chanter de l'opéra. Même une cantatrice, un grand chanteur d'opéra doit exercer sa voix jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année pour pouvoir atteindre de grands niveaux. Verset 18, celui qui n'en avait qu'un, qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Ce serviteur n'a absolument rien fait de ce talent. Et pourtant, il en avait un. Mon frère, ma sœur, tu as quelque chose. Peut-être que tu es le seul à le savoir. Mais ce matin, je veux te demander, de la part de Dieu, n'enterre pas ton talent. Ne le mets pas de côté. Ne va pas l'enrubanner dans un linge, comme la parabole dans Luc 19 nous le dit. Ne va pas le mettre de côté. Ne va pas le cacher aux yeux des autres. Mais prends-le, serre-toi-en, et Dieu te bénira. Dieu te bénira. Verset 19, il nous est dit « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. » Il nous est dit que longtemps après, ce maître est revenu. Et nous aussi, nous savons que notre maître à tous, Jésus-Christ, va revenir. Cela fait 2000 ans qu'on l'attend. Peut-être qu'on va attendre encore 2000 ans. Mais il va revenir. Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers, le roi des rois, notre maître à tous, va revenir un jour ou l'autre. Et lorsqu'il reviendra, ce sera le moment de faire les comptes. Ce sera le moment de prendre simplement ses responsabilités et d'assumer ce que l'on a fait, ce que l'on n'a pas fait. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette parabole. Et on serait peut-être tenté de désespérer, de se décourager, de se dire, c'est quand même un bon moment. Et peut-être que ses serviteurs dans cette parabole auraient eu tendance aussi à se décourager, à se dire, bon, est-ce qu'il reviendra un jour ? On ne sait pas exactement combien de temps, mais il nous est dit que longtemps après, le maître est revenu. Et pendant tout ce temps, les deux premiers serviteurs ont continué de travailler. Ils ont continué de faire fructifier ce que leur maître leur avait donné. Parce qu'au moment où leur maître est revenu, c'était le moment où ils allaient recevoir une récompense. Jésus savait que son retour, se faisant attendre, allait peut-être créer de l'angoisse, peut-être créer de l'incertitude dans nos cœurs. Et c'est pourquoi dans Jean 14, versets 1 à 3, Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. » Aussi, c'est là l'œuvre de la foi, cette ferme assurance, cette certitude que oui, Jésus va revenir. Et lorsqu'il reviendra, je veux qu'il me trouve prêt. Je veux qu'il me trouve prêt pour pouvoir aller le rejoindre dans son ciel. Verset 20 à 23 nous dit, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Remarquons que le maître se satisfait du travail de ses serviteurs. Il ne dit pas au premier, je t'en ai donné 5, t'en as obtenu que 5. Non, il lui dit, c'est bien un bon et fidèle serviteur. Il sait ce qu'il lui a donné, il connaissait ses capacités, c'est pour ça qu'il lui en a donné 5. Et lorsque son serviteur revient en disant, voici ce que j'ai réussi à faire, son maître est content. Lorsqu'on passe au deuxième serviteur, celui qui n'a eu que deux talents, à la place du maître, on aurait pu dire, mais t'aurais pu faire plus. Regarde le premier, il a réussi à en avoir cinq autres. Non, Dieu se satisfait de ce que nous faisons pour lui. Nous n'avons pas à regarder ce que fait notre voisin, ce que fait notre voisine, ce que fait tel responsable, ce que fait tel pasteur, ce que fait tel équipier, ce que fait tel frère, telle sœur. Nous n'avons pas à chercher à nous comparer. Tout ce que nous avons à faire, c'est simplement travailler pour le Seigneur. Dieu t'a peut-être donné un talent, il t'en a peut-être donné cinq, mais peu importe la quantité, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la qualité. Si tu prends le talent que Dieu t'a donné, que humblement, de tout ton cœur, tu le fais travailler de façon à pouvoir retirer quelque chose pour le donner au Seigneur, le Seigneur en sera heureux. Le Seigneur te dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, c'est bien, bonne et fidèle servante. Entre dans la joie de ton maître. Ce qui fait la joie de notre maître, c'est simplement que nous travaillons pour lui en lui faisant confiance, en étant assurés que nous avons son amour en nous. Amen. Quand Dieu regarde à notre travail pour lui, il ne nous compare pas aux autres, il ne nous demande pas d'être comme quelqu'un d'autre. Il sait qui nous sommes et il sait pertinemment ce que nous pouvons puisque c'est lui qui nous a créés. Versets 24 et 25 dit « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Le dernier serviteur, celui à qui un seul talent a été donné, a eu une attitude complètement autre. Il a pris ce talent, mais il n'en a absolument rien fait. Contrairement à Michael Jordan et à d'autres, il n'a pas cherché. Il n'a pas cherché à essayer à comprendre, il n'a pas essayé de faire quoi que ce soit. Il a pris pour état de fait qu'il ne pourrait rien en faire et il a décidé d'aller le cacher. Et il donne une explication à son maître en disant « J'ai eu peur parce que je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Versets 26 et 27, son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé ?» et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Dans certaines versions, lorsque le maître parle, il y a un point d'interrogation qui est ajouté, dans le sens où le maître s'adresse à son serviteur en reprenant ses propres paroles. Dans la parabole de Luc 19, le maître lui dit « Je te juge sur tes paroles ». Dans Proverbe 26, 5, il est écrit « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage ». Le serviteur dit « Voici ce que je croyais de toi, voici ce que l'on m'avait raconté de toi, voici ce que je pensais être représentatif de toi. » Et peut-être que toi aussi, mon ami, mon frère, ma sœur, peut-être que toi aussi, tu as une mauvaise image de Dieu, tu as une mauvaise image de ton Père céleste. Tu te dis que peut-être il est dur, que peut-être effectivement il est méchant, que c'est peut-être le fameux Père fouettard qui attend simplement une erreur de ta part, une incartade pour pouvoir te tomber dessus. Mais pourtant, la Bible nous parle de Dieu et nous donne une image complètement autre que celle de ce serviteur. Qui est Dieu? Comment est-il? Il suffit simplement de lire la Bible et je vous mets quelques versets affichés. D'après la Bible, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point. D'après la Bible, Dieu est vivant. Dieu est un rocher où tu peux trouver un abri, un bouclier et la force qui peut te sauver, une haute retraite et un refuge. Dieu est compatissant et miséricordieux. Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est un juste juge, Dieu est ton secours, Dieu est plein de compassion, Dieu est avec toi, Dieu est vrai, Dieu est fidèle, Dieu est lumière, Dieu est amour. Alors que ce serviteur avait une image fausse, une image erronée de Dieu, qui l'a poussé à agir par la paresse. À aucun moment le maître lui dit « Oh, pauvre serviteur qui avait cette fausse image de moi ou qui a eu peur », non, il le traite de méchant et de paresseux. Alors que je suis professeur, lorsque je demande à des élèves de faire des exercices, il y en a qui s'attellent à la tâche immédiatement, il y en a qu'il faut encourager un petit peu, et il y en a qui ne font rien. Et lorsque je prends mes responsabilités en tant que professeur, je vais les voir, je leur dis « Mais pourquoi tu le fais pas ?» Très souvent, la réponse la plus immédiate, c'est « C'est trop dur. C'est trop dur, j'y arrive pas. » Oui, sauf que ma réponse est donc « Est-ce que tu as essayé ? Est-ce que tu as au moins tenter de faire quelque chose. Et là, la réponse, non, j'arrive pas, c'est trop dur, je sais que j'y arriverai pas. C'est exactement pareil. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est difficile si on n'essaie pas? Et Dieu nous dit que nous ne serons pas seuls à essayer. Il sera avec nous à chaque instant, par sa présence, par la présence du Saint-Esprit. Il nous aidera à accomplir tout ce qu'il nous demande d'accomplir, tout ce que nous devons faire pour lui obéir. Jésus est là pour nous aider. Jésus est là pour nous conseiller. Jésus est là pour nous fournir tout ce dont nous avons besoin. Nous voulons tous entendre cela venir de la bouche du Père. C'est bien. Entre dans la joie de ton maître. Il y a un an ou deux de cela, une émission aux États-Unis qui s'intitule America's Got Talent, qui a été traduite en français par La France a un incroyable talent, a vu une concurrente, une candidate bien particulière, venir se présenter. Son nom est Mandy Harvey. Vous la voyez, c'est une jeune femme. Elle s'est présentée et dans son enfance, elle a fait des études en musicologie. Elle a fait la faculté, il me semble qu'elle a une licence ou un master en musique. Mais à l'âge de 19 ans, suite à une infection aux oreilles, elle a commencé petit à petit à perdre son audition, jusqu'à devenir complètement sourde des deux oreilles. Elle n'entend absolument rien de l'extérieur, ni même de l'intérieur. Et cette jeune femme est chrétienne. Elle a prié pour la guérison, mais la guérison ne venait pas. Des gens ont prié pour elle, sa famille a prié pour elle, son pasteur, son église a prié pour elle, et la guérison ne venait pas. Et alors qu'elle commençait à être découragée, alors que la dépression commençait à pointer le bout de son nez, elle raconte qu'un jour, elle descendait les escaliers de chez elle et elle est tombée, elle a trébuché, elle est tombée et elle s'est retrouvée par terre. Elle était à un tel point de désespoir, pensant que sa vie était complètement gâchée, que sa vie était terminée, qu'elle ne pourrait plus rien faire de bien. Elle a dit qu'un choix s'est présenté à elle, celui de rester par terre, de ne plus rien tenter, de ne plus rien essayer, ou celui de se lever, celui de se relever et de croire que Dieu est capable, d'une manière ou d'une autre, de faire un miracle. Et après plusieurs rendez-vous concluants avec des anciens professeurs, elle s'est rendue compte et on lui a dit que malgré sa surdité aux deux oreilles, elle était toujours capable de chanter. Toujours capable de chanter juste. Et avec différents appareils électroniques, elle peut voir où est-ce que sa voix se situe sur la gamme. Et elle peut continuer à chanter les chants qu'elle a écrits, les chants qu'elle a connus, mais elle peut également apprendre de nouveaux chants. Et il y a une vidéo que j'aimerais que l'on puisse diffuser. Vous la voyez ici dans cette émission qui s'appelle bizarrement « L'Amérique a du talent ». Et ce dernier talent qui lui restait, elle l'a mis au profit du Seigneur. Et désormais, on va la voir. Et désormais, elle conduit la louange dans son église. Bon, c'est pas grave. On l'écoutera une prochaine fois. Désolé. Bref, elle conduit quand même la louange dans son église. Une jeune femme qui est devenue sourde peut quand même continuer à exercer le talent que Dieu lui a donné. Et cette jeune femme est chrétienne, cette jeune femme est impliquée dans son église. Elle n'a pas vécu il y a dizaines ou des centaines d'années, elle vit encore aujourd'hui et vous pouvez retrouver sur son site internet tout ce qu'elle fait. Et alors qu'elle est passée à la télévision, elle a pu donner l'espoir à des centaines, à des milliers et encore aujourd'hui ce matin, parmi nous, elle nous donne l'espoir, l'assurance que Dieu est capable de mener à bien ses projets. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. J'aimerais inviter les musiciens à bien vouloir reprendre place sur l'estrade. Et j'aimerais terminer ces instants. Tu as au moins un talent. Tu as au moins une aptitude, une capacité que tu sais qui est là depuis peut-être depuis des années, peut-être depuis des dizaines d'années. Et à cause d'une mauvaise conception de Dieu, à cause d'une mauvaise image, à cause de la peur, à cause de ce que l'on t'a dit, à cause d'un manque de confiance en toi, à cause peut-être d'un manque de confiance en Dieu, tu as mis ce talent de côté. Tu l'as enterré. À tel point peut-être que personne ne le sait. Personne ne sait peut-être que tu chantes extrêmement bien. Personne ne sait peut-être que tu sais jouer d'un instrument. Personne ne sait peut-être que tu es très doué dans les chiffres. Personne ne sait peut-être que tu es simplement très doué de tes mains dans le bricolage. Parce que tu as peut-être peur de ce que les gens pourraient dire, parce que tu as peut-être peur de l'échec, alors tu as décidé de mettre de côté ce talent. Et ce matin, bien humblement, mais de tout mon cœur, je veux t'encourager. N'enterre pas ton talent. N'enterre pas ton talent, mais donne-le à Dieu. Confie-le à Dieu. Et tu vas voir ce qu'il est capable de faire. Tu vas voir ce qu'il est capable d'accomplir si simplement tu décides de lui faire confiance. Je vais vous inviter à fermer les yeux quelques instants. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ce matin, Dieu te parle et il te prévient qu'un jour, tu devras rendre des comptes. Peut-être que pour l'instant, ce talent est bien enterré au fond de ton cœur. Ce talent est peut-être bien enterré au fond de ton passé. Mais il y a un jour, très bientôt, où tu te retrouveras face à Dieu, face à ton Père éternel, celui qui t'aime et celui qui t'a donné ce talent. Et que tu le veuilles ou non, tu vas devoir rendre des comptes. Il va te poser la question, il va te dire, ce talent que je t'ai donné, qu'est-ce que tu en as fait? Où est-il? Il y a deux possibilités. Tu peux être comme ces premiers serviteurs qui ont dit, ben voilà, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai réussi à faire et j'ai réussi en avoir, en retirer un bénéfice. Prends-le, c'est tout ce que j'ai. Et Dieu va te dire, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais peut-être que malheureusement, tu seras comme ce troisième serviteur et tu diras, j'ai eu peur, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la force, j'ai pas eu le courage. Et malheureusement, malheureusement, tu n'auras pas de récompense. Au contraire, si tu ne veux pas travailler pour le Seigneur sur cette terre, qu'est-ce qui te fait croire que tu voudrais être avec lui pour l'éternité ? Si tu ne veux pas passer du temps avec Jésus alors que tu es sur terre, qu'est-ce qui te fait croire que tu serais digne de passer l'éternité avec lui? Et pour certains d'entre nous, c'est très clair, Dieu a mis le doigt sur quelque chose. Mais alors que je priais encore pour ce message, j'ai réalisé que le talent, à la base, est une unité de mesure. Chez les Grecs, cela faisait environ 25 kilos, chez les Romains, ça faisait 32 kilos, c'est simplement une quantité d'argent, une quantité d'or. Et alors que je priais, je me suis dit, ce talent, c'est peut-être aussi ce que le proverbe dit, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Mon frère, ma sœur, peut-être que Dieu t'a donné beaucoup de temps. Il t'a donné 5 talents, il t'a donné peut-être 5 heures dans la journée ou dans la semaine. Est-ce que tu les utilises pour lui? Peut-être que Dieu ne t'a donné que 2 heures. Tu es peut-être une maman très occupée. Tu es peut-être un responsable très affairé dans ton entreprise. Tu as peut-être beaucoup de responsabilités. Tu n'as que 2 heures, peut-être, de temps en temps. Mais est-ce que tu les mets à profit pour le Seigneur? Peut-être qu'à la maison, ça va pas du tout. Peut-être que dans les finances, ça va pas du tout. Avec tout ce que tu as à faire, il ne te reste à peine peut-être qu'une heure, qu'un seul talent. Mais peu importe la quantité, Jésus veut la qualité. Que tu aies 1 heure, que tu en aies 5, que tu en aies 24, donne simplement ce que tu as à Dieu. Donne ce temps à Jésus pour apprendre à le connaître, pour apprendre à le découvrir, et tu en sortiras avec un bénéfice. Tu ressortiras de cette heure de prière, de cette heure peut-être de louange, de cette heure où tu auras lu la parole, tu en ressortiras avec quelque chose de plus. Avec quelque chose de Dieu, tu découvriras une nouvelle facette de Dieu. Tu comprendras un verset différemment. Tu recevras une promesse, une vision. Tu auras un songe de la part de Dieu simplement parce que tu as pris ce petit talent, ce simple talent, ce seul talent que tu avais à ta disposition et que tu l'auras mis au service du Seigneur. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous mettions nos talents à son service pour bénir les autres? Il veut également que nous puissions le voir agir au travers de nos vies. Et il veut que nous puissions l'honorer et apprendre à le connaître. Que nous puissions ce matin lui donner nos talents, les mettre à sa disposition. Et même si tu penses ne rien avoir, alors donne-lui simplement ta vie et tu verras ce qu'il en fera. Il en fera quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux, quelque chose de majestueux. alors que nous avons les yeux fermés, que l'équipe de louange nous conduit dans ce chant. Si tu veux donner, si tu veux redonner, si tu veux dédier ou redédier ta vie à Jésus, alors lève-toi à ta place ce matin. Si Dieu a appuyé sur quelque chose, si Dieu t'a rappelé ce talent que toi tu as enfoui, que toi tu as laissé de côté depuis tant d'années, mais que tu décides de lui rendre, que tu décides de lui donner, alors lève-toi à ta place ce matin. Lève-toi à ta place ce matin, simplement tends tes mains vers lui et dis-lui, Seigneur, je te donne. Je te donne ce talent, je te donne peut-être ces 5 talents. Je te les donne afin que toi, Seigneur, tu puisses les faire fructifier, que toi tu puisses les faire valoir. Et Seigneur Jésus, tu vas m'aider. Tu vas m'aider à faire grandir ce talent. Tu vas m'aider à m'entraîner. Tu vas m'aider à m'exercer de façon à ce que ces talents te rapportent la gloire à toi et à toi seul. Alléluia, Jésus.